Bonjour, c'est Anne-Elisabeth et vous écoutez C'est à vous, un podcast de France Télévisions. Bonne émission. Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe. Salut à tous les six.
Bonsoir Babette.
Émilie, votre choix de l'actu du jour.
En 2022, les Français ont toujours faim et froid. C'est le constat du Secours Populaire qui a publié son 16e baromètre de la pauvreté dans notre pays. Une réalité qu'il faut regarder en face sans jamais baisser les yeux.
Ne jamais baisser les yeux, c'est le titre de ce manifeste signé Henriette Stenberg, qui est la secrétaire générale du Secours Populaire, engagée auprès des plus démunis depuis qu'elle a 12 ans seulement. Elle sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story ce soir.
Je vous raconte ce soir l'histoire d'un médecin victime d'une énième agression à Marseille. Il a pris une décision, il a décidé de fermer son cabinet.
Il jette l'éponge et on l'entendra tout à l'heure dans votre story. Patrick, votre édito.
Sabotage, c'est le mot du jour dans toutes les langues. Le sabotage du gazoduc Nord Stream suscite une nouvelle montée de gaz dans la communauté internationale.
Trêve de jeu de mots, mais les analyses de Laure Mandeville, grande reporter au Figaro et ancienne correspondante à Moscou. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté ce soir notre invitation. Mathieu dans le 5 sur 5.
Est-ce qu'on peut jouer au foot avec l'extrême droite? C'est la question que se posent les députés NUPES d'abord, ceux de la majorité aussi aujourd'hui, alors qu'il y a une demi-heure a commencé un match entre le 11 parlementaire et une sélection d'anciens internationaux et de people pour la bonne cause. Ils avaient oublié qu'il y a eu 80 députés, 88 députés RN qui sont rentrés à 89, le groupe qui est un apparenté. Enfin,
pour se rendre compte,
ils sont arrivés à l'Assemblée nationale au mois de juin. Bref, est-ce qu'on peut jouer au foot avec l'extrême droite? C'est la question que nous posons.
Dans le 5 sur 5 de Mathieu Béliard, qui est très pointilleux sur les chiffres, et vous avez bien raison. Pierre, dans votre œil.
Histoire d'A, c'est un documentaire, mais surtout un véritable manifeste pour le droit à l'avortement sorti en 1973, deux ans avant la loi Veil. Il ressort aujourd'hui en DVD, je vous le présente en cette journée mondiale pour le droit à l'avortement.
Le mercredi, c'est le jour de la chanson de Sandrine Saroche. Salut Sandrine.
Salut Babette.
Bonsoir.
Alors moi, je vais vous parler de Bécassine Rousseau avec Chantal Goya.
Voilà, l'actualité que vous mettez en chanson, inspirée par Sandrine Rousseau et par notre invitée du dîner, Chantal Goya, qui fête ses 50 ans de carrière, ses 80 ans tout court, ses 40 millions d'albums vendus, plus de 400 chansons, et évidemment la place très importante qu'elle a dans notre vie, dans la vie des Français. Elle est notre invitée du dîner. On accueillera également Olivia de Lamberterie, qui publie un très joli roman. Comment font les gens? Bah oui, c'est une excellente question. Elle trouvera peut-être des réponses pour lui dire comment on fait pour vivre dans le monde dans lequel on vit actuellement. Ce lancement aura une fin dans un instant. Un dîner préparé ce soir par Louis Amen.
Bonsoir.
Qui est encore... Oh, salut Louis. Est-ce que Bertrand Chamerois est à vos côtés?
Oui, juste... Pardon.
Toujours.
Je suis très content de Babette ce soir, puisqu'en ce mercredi, Louis va vous préparer...
Des gnocchis.
Pardon, vous dites des gnocchis, vous aussi?
Non, personne ne dit ça.
D'accord, Babette, il n'y a que vous qui dites des gnocchis. Des gnocchis, accompagnez-moi, cher Louis.
Alors, des gnocchis accompagnés de cèpes, figues, lard croustillant, voilà, un plat gourmand.
D'abord, on va se régaler. Merci, Louis. Bonne émission.
Ça sent très très bon d'ici les gnocchis, vraiment. À tout à l'heure pour le dîner de C'est à vous. Tout de suite l'édito de Patrick Cohen. Il y a littéralement de l'eau dans le gaz entre la Russie et l'Europe.
Et beaucoup de gaz dans l'eau de la Baltique. Regardez ces images, regardez comme ça bouillonne. Nous sommes au large du Danemark. Depuis deux jours, d'énormes quantités de méthane s'échappent de deux pipelines posées à 80 mètres de profondeur. La navigation est interdite dans un rayon de 10 km. Vaut mieux ne pas y craquer une allumette. Les autorités locales ont d'abord parlé de fuite, mais il est évident pour tout le monde qu'il s'agit d'un sabotage.
Aucune chance que ce soit un accident.
On n'a jamais vu trois fuites simultanées sur des gazoducs qui sont des grosses canalisations en acier de très haute résistance et dont on est à peu près certain qu'elles ont été endommagées par des explosions sous-marines. Les sismologues de la région ont enregistré deux secousses lundi, l'une à 2h du matin, l'autre à 17h, et ce n'était pas un tremblement de terre. terre, mais deux ondes de choc, deux détonations venues du fond de la mer. Voilà pourquoi les dirigeants européens unanimes dénoncent un sabotage.
Det är alltså troligen en fråga om ett sabotage.
Their initial reports indicating that this may be the result of an attack or some kind of sabotage.
Widzimy wyraźnie, że jest to akt sabotażu.
Où l'on apprend que sabotage se dit donc dans toutes les langues, un sabotage des gazoducs Nord Stream. Deux infrastructures au cœur du conflit énergétique entre l'Europe et la Russie.
Mais ces gazoducs étaient hors service, non ?
Oui, c'est vrai, les Russes ont arrêté Nord Stream 1 à la fin août, officiellement pour des raisons de maintenance, une prétendue fuite d'huile en réalité très politique, et Nord Stream 2, tuyau parallèle au premier, n'a jamais démarré, équipement abandonné à cause de l'invasion de l'Ukraine. Mais les pipelines étaient tout de même remplies de gaz, environ 300 000 tonnes, c'est celui-ci qui s'échappe et qui devrait continuer de se répandre pendant une semaine.
Avec des dégâts environnementaux.
C'est du gaz à effet de serre, donc c'est pas neutre, c'est pas fameux, mais comme le méthane ne se mélange pas à l'eau, il n'y aura pas a priori de pollution marine.
Alors la question qui s'impose, c'est qui aurait pu faire sauter ces gazoducs ?
Alors il faut d'abord se demander qui en a les moyens. À 80 mètres de fond, ça ne peut pas être un acte isolé, ça ne peut pas se faire avec un pain de plastique et une paire de palmes. Façon James Bond, voilà. L'attaque a nécessité, d'après des experts militaires, l'équivalent de plusieurs centaines de kilos de TNT par explosion et l'utilisation d'un sous-marin avec des drones sous-marins ou des nageurs de combat, ce qui désigne une armée et un État, et en premier lieu la Russie, qui a une présence militaire et maritime importante en mer Baltique. C'est là qu'elle dispose de la plus grande flotte au monde de sous-marins espions.
Mais Moscou accuse les Américains.
Voilà, la diplomatie russe a demandé une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, qui aura lieu d'ailleurs vendredi, et elle somme Joe Biden de s'expliquer parce que le président américain avait dit début février que Washington mettrait fin à Nord Stream 2 si l'Ukraine était envahie. Les Russes ont maintenant beau jeu de demander aux Américains s'ils ont mis leur menace à exécution, mais cela ressemble fortement à une manœuvre de diversion.
On comprend mal quel serait l'intérêt des Russes.
De saboter leurs propres infrastructures, oui. Oui, c'est une bonne question. Ce serait stupide et absurde, a dit tout à l'heure le porte-parole du Kremlin. Et en plus, le gaz coûte très cher. C'est vrai, on pourrait aussi lui rétorquer que la guerre en Ukraine aussi est absurde et qu'elle coûte très cher à Moscou. On peut aussi noter que ces gazoducs étaient condamnés à ne plus servir, que ce qui était improbable, c'est-à-dire une livraison, une reprise des livraisons de gaz russe, est maintenant devenu impossible parce que la remise en état de ces pipelines remplies d'eau coûterait une fortune. Et enfin, que ce sabotage a remis un coup de stress sur le marché du gaz. C'était sans doute l'un des objectifs. Le cours du mégawattheure a bondi de près de 10% ce matin sur les marchés internationaux, à plus de 200 euros, trois fois plus que son prix d'il y a un an.
Cet épisode nous dit aussi que nos tuyaux, nos pipelines, oui, pipelines, sont vulnérables.
C'est ce que disent les militaires depuis longtemps. Gazoducs, pipelines, liaisons Internet, câbles électriques. Il y a des milliers de kilomètres de tuyaux stratégiques qui courent, pas seulement dans la Baltique, mais aussi en mer du Nord et en Méditerranée. La destruction des Nord Stream sonne comme un avertissement et peut-être, comme le faisait remarquer Pierre Aski ce matin sur France Inter, comme une extension du champ de la guerre.
Une extension du champ de la guerre. C'est la bonne analyse
Oui,
alors
en fait, moi j'écoutais ce que disait Patrick Cohen, et c'est vrai que je pense qu'il faut souligner que la Russie est le pays qui a les moyens en fait de mener cette opération, qui se trouve à proximité, donc ça c'est important. Mais pour moi, en fait, c'est un élément de ce que j'appelle la guerre hybride. C'est-à-dire qu'au moment, si vous voulez, bien sûr, on ne veut pas dire exactement ce qui s'est passé, mais moi, ma connaissance de la Russie, de la manière dont elle fonctionne, de leur habitude, en fait, de la diversion, de leur volonté, en fait, de toujours brouiller les cartes, de détourner l'attention, fait penser qu'au moment où la Russie donne un spectacle absolument calamiteux de cette mobilisation qui a été décidée, où on voit un pays où les gens votent avec leurs pieds, s'en vont par centaines de milliers à toutes les frontières qu'ils peuvent atteindre, où par exemple au Kazakhstan, il y a encore des jours et des jours d'attente, où déjà plus de 100 000 personnes auraient passé la frontière, il y en aurait
pour
autant
éviter justement la
pour éviter la mobilisation. Donc en fait, au moment où le peuple envoie une sorte de camouflé, de désaveu violent et retentissant à ce pouvoir, il faut détourner l'attention. Et que faire pour détourner l'attention, notamment en Occident, où la Russie, du coup, perd des alliés, apparaît comme...
En déroute.
Voilà, en déroute. Il faut creuser un coin entre les Américains et leurs alliés. Et si vous voulez, un signe assez révélateur de cette histoire, c'est que si vous regardez les réseaux sociaux de tous les sites pro-Poutine et de tous leurs relais d'influence et de propagande en Occident aujourd'hui, ils sont immédiatement montés sur leurs grands chevaux propagandistes pour expliquer par A plus B que c'était un coup des Américains, que les Américains voulaient soumettre l'Allemagne, alors que l'Allemagne, il ne faut pas oublier aujourd'hui, a déjà réduit sa dépendance d'une telle manière au gaz russe à 9% alors qu'ils étaient à 55%.
Ça peut vraiment fonctionner, justement. Ça peut vraiment éventuellement faire vaciller la solidarité occidentale entre en tout les cas, États-Unis et l'Allemagne.
Non, juste pour dire, la vidéo de Biden de février qui dit « nous allons mettre fin à Nord Stream » elle est l'une des plus partagées sur les réseaux sociaux depuis 24 heures.
Mais ça peut fonctionner.
En tout cas, ça peut, moi je pense, alimenter ce courant très anti-américain qui, comme vous le savez, reste extrêmement présent dans la société française. Et même si aujourd'hui, on voit que la population française est massivement en faveur de l'Ukraine, grâce notamment au front journalistique français qui, je pense, est quand même assez remarquable, c'est vrai que vous avez ce courant à la fois très présent dans l'extrême droite, dans l'extrême gauche et aussi dans des courants de la droite néo-gaulliste pour dire qu'au fond, c'est les Américains qui sont en train d'affaiblir l'Europe et de vouloir à nouveau la soumettre.
Nos tuyaux sous-marins sont vulnérables. D'ailleurs, la CIA aurait averti, il y a quelques semaines, le gouvernement fédéral allemand de possibles attaques contre ces gazoducs en mer Baltique. Il faut mieux surveiller, protéger les pipelines, les pipelines, les pipelines.
C'est effectivement un facteur de vulnérabilité très, très important. Mais ce n'est pas les seuls. Vous avez aujourd'hui une vulnérabilité générale de tout ce qui alimente en fait, le sang de nos économies, y compris les réseaux informatiques, les centrales nucléaires, les centrales hydrauliques, etc. etc.
Donc, qui sont autant de cibles potentielles.
Exactement.
Vous l'avez rappelé, les dirigeants pro-russes des régions ukrainiennes de Lugansk et de Kherson ont annoncé aujourd'hui demander leur rattachement à la Russie, le tout au lendemain des référendums qui, sans surprise, ont vu le oui obtenir entre 87 et 99% des votes condamnés par la communauté internationale et notamment par la France.
Il y a de faux référendums qui sont organisés, qui n'ont pas de légitimité. Comment voulez-vous que les gens s'expriment librement, sous la contrainte et dans des territoires qui sont occupés par une puissance étrangère? Les quelques estimations que l'on voit, au demeurant sur les résultats, montrent qu'il s'agit d'une mascarade. Entre 95 et 98% de oui, ça me semble se passer de commentaires. Il n'y a aucune sincérité dans les votes qui ont pu être exprimés.
L'annexion de ces quatre provinces ukrainiennes pourrait être rapide. En tout cas, c'est ce que veut le Kremlin. Pourquoi ? Parce que ça permettrait d'enrôler de force les hommes de ces quatre provinces dans l'armée russe.
Oui, c'est un des facteurs. Et c'est aussi une manière d'essayer de sanctuariser en fait, ces territoires et de dire, au fond, ces territoires, s'ils sont russes, ne peuvent plus être attaqués parce que sinon s'applique la dissuasion nucléaire. Et on en revient à ce qui a été brandi depuis plusieurs jours et en réalité depuis des mois par Vladimir Poutine, qui est « si vous touchez à mon territoire, je balance une bombe nucléaire ». Exactement.
Ce matin, les autorités ont annoncé qu'ils ne délivreront plus de passeports à ceux qui sont mobilisés ou mobilisables. C'est une manière déguisée de fermer les frontières.
Oui, alors effectivement, en Russie, vous parlez de la Russie.
Bien sûr.
Effectivement, c'est une manière de faire pression sur ces gens mobilisables. Vous savez qu'il y a un certain nombre de voix au Parlement russe, ou si on peut appeler ça encore un Parlement, à la Douma, qui appelle à fermer les frontières tout court. Et donc je pense qu'on est dans la première étape et que le Kremlin, ne voulant pas complètement s'aliéner une partie de ses soutiens, parce que les frontières, c'était quand même, si vous voulez, d'une certaine manière, l'assurance-vie et la bouffée d'oxygène de ce pays depuis des années. C'était un acquis, en fait, qu'il avait donné, cette espèce d'ouverture. On va, on vient, on soutient le régime, mais on peut sortir. Et donc, je pense qu'il hésite à faire une fermeture de frontières totale. Et donc, on recourt à ce que vous avez mentionné pour essayer, en fait, d'endiguer cette espèce de ce qu'on appelle, ce que je, vraiment on peut appeler une véritable hémorragie, et qui en dit long, en fait, sur peu à peu ce qui apparaît comme la fragilisation, si vous voulez, de ce pouvoir, comme une sorte de termitière qui, sous la, vous savez, l'aspect Potemkin, l'aspect apparence, en fait, de la solidité, montre que c'est un pays profondément vulnérable et aussi en désordre.
À la télévision, on entend même des idéologues dire qu'il faut fusiller les réfractaires. Est-ce que ça pourrait pousser les Russes à se révolter malgré la répression des manifestations ?
Oui, alors c'est vrai qu'on n'est pas très surpris quand on entend ce Vladimir Soloviov, qui, vous savez, le principal propagandiste de la télévision russe, qui, moi, j'ai suivi jusqu'à ce que cette chaîne soit coupée sur les chaînes françaises, sur les réseaux, les bouquets satellites français. J'ai suivi au jour le jour son émission qui était absolument effrayante, où il profère des insanités fascistes, en fait, visant à écraser les cafards d'Ukrainiens, mais aussi d'Occidentaux. Il a proposé 36 fois de balancer des bombes sur Berlin, sur Varsovie, sur Londres. Donc, si vous voulez, ce qu'il dit aujourd'hui sur fusiller les gens qui ne veulent pas y aller, ça fait partie d'un contexte beaucoup plus large qui existe depuis des années. Il faut bien voir aussi que cette espèce de lobotomisation de la population russe a été possible grâce à cet appareil de propagande qui, depuis 22 ans, leur matraque qu'ils sont menacés par l'Occident, que l'Ukraine, c'est en fait des traîtres. Il y a eu un processus presque de transformation des Ukrainiens en une sorte... C'était les Juifs des nazis, si vous voulez. C'est un peu le même phénomène qui se produit. Ça a été très, très bien raconté par plusieurs analystes russes. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, le pouvoir montre sa faiblesse. Parce que, en fait, cette surenchère montre que le sol commence à se dérober sous leurs pieds. Le problème, c'est que, bien sûr, ça peut aller beaucoup plus lentement que ce qu'on pense. C'est-à-dire, on ne sait pas encore la rapidité avec laquelle ça peut s'effondrer. Moi, j'ai mis l'hypothèse dans un papier que, effectivement, cette mobilisation pourrait, à terme, entraîner une sorte de révolte plus large. Il y a des éléments de révolte. Vous voyez ce qui se passe au Daghestan, par exemple, dans ce Caucase russe qui est traversé depuis des siècles, en fait, par une sorte d'hostilité viscérale vis-à-vis de Moscou. Et donc, il y a le souvenir de l'écrasement qu'il y a eu vis-à-vis de la Tchétchénie. Tout ça reste là et caché, sous la répression qui s'est abattue sur le Caucase. Mais ça peut éventuellement ressortir. On voit qu'il y a des mères de soldats qui sortent et qui disent qu'elles vont s'opposer, etc.
Justement, dimanche, on les a vus protester contre le départ de leur fils à la guerre. On le voit, non, à la guerre. Ces mères de soldats, ce sont des mères de soldats qui s'engagent, qui se mobilisent. Est-ce qu'elles peuvent avoir une influence sur le Kremlin ?
Eh ben, ouais, en fait, si vous voulez, il y a des mouvements contradictoires. Parce que, par exemple, j'écoutais une interview d'un analyste russe d'opposition qui disait que les comités de mères de soldats en Russie, au contraire, se plaignaient du fait que les mères n'osaient pas se mobiliser, qu'elles ne voulaient pas appeler le ministère de la Défense. Parce qu'avant, par exemple, pendant la guerre de Tchétchénie, le comité des mères de soldats, c'était une structure extrêmement puissante qui était en contact permanent avec le ministère de la Défense russe et qui les appelait, qui les brutalisait même rhétoriquement en disant « Mais qu'est-ce que vous faites ? C'est monstrueux !» Elles allaient sur le terrain, elles ramenaient des soldats qui avaient été qui étaient là contre leur gré, etc., etc. Aujourd'hui, elles disent qu'il y a quand même une chape et que beaucoup de mères de soldats sont complètement désorientées.
N'est-ce pas au fait que le Kremlin essaie d'acheter leur silence aussi ?
Il y a ça aussi, il y a des choses absolument terribles, comme vous savez, qui font que, par exemple, ils disent qu'ils vont payer pour le corps si leur fils meurt au combat, ils recevront en fait des milliers d'euros. Donc, si vous voulez, il y a un côté profondément amoral dans tout ça qui fait très peur. Mais c'est vrai qu'on voit aussi les images qu'on vient de voir et qui montrent quand même que la colère gagne et que dans certains endroits, elles n'ont plus peur de dire non à la guerre, alors que le mot guerre était banni du vocabulaire. Et elles disent qui a attaqué qui est attaqué, c'est la Russie. Alors que ça, évidemment, vous savez bien que, par exemple, dans les médias, c'est interdit de dire tout ça et que quand vous opposez à la guerre, vous encourez une peine de 15 ans de prison. Donc, ce que disent certains analystes, c'est que s'il est plus possible de s'en aller, on a la seule option, c'est soit aller en tôle parce qu'on ne veut pas aller à la guerre, soit aller au front pour risquer de se faire tuer, peut-être que cela va déclencher des protestations plus importantes parce que les gens, à ce moment-là, n'auront plus d'autres possibilités s'ils ne peuvent plus partir et plus rien faire d'autre.
Il y a l'hémorragie, vous l'évoquiez, de ceux qui ne veulent pas être mobilisés. Et puis ceux qui sont déjà mobilisés ne sont pas au bout de leur peine, comme en témoignent les vidéos qui commencent à circuler aussi en Russie.
Это все свое, мальчишки. Вам форму, все, что армия, вам броню, вот это все, что касаемо военного. Этого ничего нет.
А тут ничего нет. Никакого снабжения, никакой электроники.
Оставили нас без нихуя, без воды, блядь, без еды, нахуй. Сидим, ждем у моря погоды.
Dmitri Bourgakov, le général russe chargé de la logistique, a été limogé samedi dernier. Mais jusqu'à quel point Vladimir Poutine peut-il à ce point secouer son état-major et remettre en cause son armée ?
Ben, vous avez raison, c'est-à-dire que pour moi qui ai couvert en fait l'armée russe pendant des années, mon premier livre c'était un livre sur l'armée russe, je retrouve, si vous voulez, des situations que j'ai vues depuis que je couvre en 89 ce pays. C'est-à-dire que ça a toujours été comme ça. On échangeait aujourd'hui avec un de mes anciens compagnons de reportage néerlandais qui a été comme moi en Tchétchénie, etc. On a vu ces problèmes-là. On a vu des soldats qui nous disaient on nous donne des boîtes de conserve de la Seconde Guerre mondiale dans nos packages. Donc si vous voulez, tout ça on l'a vu. Et c'est vrai que c'est quand même choquant quand on voit cette femme que vous voyez dans votre vidéo, qui ensuite explique à ces malheureux soldats qui arrivent qu'il faudra qu'ils se fournissent en médicaments et même en couches qu'ils devront, si vous voulez, en tampons qu'ils devront demander à leurs femmes, parce que si jamais ils ont des blessures, il faudra qu'eux-mêmes, ils puissent
cautériser
leurs plaies. Donc c'est des choses complètement incroyables. Et vous avez, effectivement, il y a eu, pour conclure, il y a, si vous voulez, toutes les plaies, tous les dysfonctionnements de ce pays dont Vladimir Poutine a voulu nous dire depuis des années qu'il l'avait remis en ordre, que c'était une formidable, si vous voulez, force qui est en marche, qu'il était en train de reconstituer une armée extraordinaire et un pays qui était au premier rang du monde. On voit bien en fait que derrière cette façade trompeuse, il y a des lézards de partout. Et toute la question est de savoir à quel moment, dans quelles circonstances, les choses vont se précipiter et ce régime finira par tomber.
Merci beaucoup, Laure Mandeville. Je renvoie au Figaro dans lequel vous écrivez. Et puis à un de vos précédents ouvrages qui n'est pas sur la question de l'Ukraine, mais qui nous parlait des révoltés d'Occident, de Trump à Zemmour. Que se passe-t-il vraiment ? C'était sorti aux éditions de l'Observatoire en avril 2022. Dans l'actualité, Émilie, plusieurs rassemblements sont prévus demain, partout en France, pour réclamer une hausse des salaires, des pensions et des minima sociaux.
Première journée de mobilisation depuis la rentrée, il pourrait y en avoir d'autres, tant le contexte est inflammable. Nous sortons à peine de 2 ans de crise sanitaire que voici l'inflation, plus 5,8% en France. Et ça, c'est pour l'inflation moyenne. Mais si on regarde en détail, poste par poste, c'est pire. La viande, par exemple, plus 8,8%. La volaille, plus 14,6%. Le bœuf, plus 10,2%. Ça monte même à plus 30% quand c'est du bœuf surgelé. Préparez-vous donc à la sobriété, certes, mais aussi à entendre de plus en plus ce genre de témoignages.
Il y a plein de trucs que je ne peux plus acheter parce que c'est trop cher, quoi. J'ai mangé de la viande quand le Secours Populaire va me donner un peu de viande ou du poisson. Mais sinon, moi, à part où j'ai fait un excès dimanche parce que c'était l'anniversaire de ma fille et j'ai acheté 2 petites barquettes de viande hachée, et ben ça me fait un petit trou dans mon budget. Mais bon, c'était son anniversaire et je me suis dit non, c'est pas possible. J'en ai marre, on ne vit plus, quoi. Il n'y a pas de petits plaisirs et pourtant, c'était des spaghettis à la bolognaise qu'elle voulait.
À chaque fois qu'elle a pu manger de la viande, c'était grâce au Secours Populaire, l'association qui a encore aidé plus de 3,5 millions de personnes dans 80 pays cette année. Nombre de bénéficiaires qui pourraient encore augmenter avec des profils toujours plus variés, car la pauvreté se répand comme un feu de forêt. Constat du Secours Populaire qui a présenté il y a quelques jours son 16e baromètre annuel de la pauvreté et de la précarité. On apprend ainsi que pour plus d'un Français sur trois, l'alimentation est devenue un sujet de préoccupation. Près d'un Français sur deux a des difficultés pour payer son essence. Tout autre coût lié au transport, c'est une augmentation de 15 points en un an seulement. À peu près autant de personnes qui ont du mal à payer leurs factures de chauffage, d'électricité, c'est plus 5 points par rapport à l'an dernier. Des difficultés qui s'ajoutent bien sûr à celles de l'an dernier. 6 millions de ménages recevaient déjà le chèque énergie en 2021. C'est ce qu'a voulu rappeler le député insoumis François Ruffin en commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale.
Il y a un an déjà, vous mettiez en place une première réforme de l'assurance chômage. Quel bilan vous en avez tiré? Par exemple, pour Aurélia, qui s'occupe d'enfants handicapés, qui est en CDD prise et reprise par une association, elle passe de 900 euros à 707 euros. Elle a peur de perdre sa maison. Elle bouffe des pois chiches tous les jours. Elle n'a rien pour son fils étudiant. Voilà ce que vous avez fait l'an dernier. Oui. Voilà la violence tranquille que vous produisez.
Bonsoir, Henriette Stenberg.
Bonsoir.
Secrétaire général du Secours Populaire, qui publie donc son 16e baromètre de la pauvreté et de la précarité en France. Avec ce constat, l'alimentation est devenue un enjeu. Pour plus d'un tiers des Français, les enfants sont de plus en plus touchés. Ça, c'est une priorité absolue pour le Secours Populaire.
C'est une priorité absolue. Et dans le dernier sondage, ce qui pour nous est une alerte qu'on tient absolument à faire entendre, c'est que les enfants eux-mêmes interrogés connaissent dans leur classe ou dans leur école des enfants qui ne mangent pas à leur faim et qui disent en fin d'échange, et vous imaginez ce que ça veut dire, oui, ça m'arrive à moi aussi. Ça, c'est quelque chose que nous n'avions jamais rencontré en France. Et nous faisons ces sondages en direction des enfants tous les 5 ans. Donc, on a une vraie alerte. On a bien identifié dans plusieurs catégories de population la situation s'aggraver. Il nous avait été expliqué que ça allait s'améliorer. Nous, on n'a vraiment pas vu d'amélioration. Et ce n'est pas seulement nous. Je veux dire, c'est la population elle-même qui n'a pas vu d'amélioration. Mais en ce qui concerne les enfants, pour nous, c'est un signal d'alarme complémentaire que des enfants admettent qu'ils n'ont pas assez à manger dans notre pays. Et ces enfants sont à l'école, ce ne sont pas des enfants qui sont dans des institutions particulières ou qui seraient dans la rue. Non, non, ce sont nos enfants. Et ça, c'est une vraie alerte.
Est-ce que, comme le député insoumis François Ruffin qu'on vient d'entendre, vous estimez que le gouvernement n'agit pas assez pour ces Français les plus démunis, ou est-ce qu'il faut ne plus attendre les actions de l'État et mobiliser les citoyens, ce que fait le Secours Populaire?
Alors, vous avez répondu vous-même à la question. Le Secours Populaire pense, et là je m'en fais l'écho, que c'est par une mobilisation de chacun qui tient compte de l'autre, dans le respect de qui il est ou de qui elle est, qu'il est possible de faire bouger les lignes. Et ce n'est pas une question théorique, c'est une question extrêmement concrète. Et pour le Secours Populaire, nous l'avons vu, nous le connaissions avant la Covid, nous l'avons connu pendant la Covid, et nous le connaissons encore maintenant. Pour nous, il est clair qu'il doit y avoir une mobilisation des personnes pour aider ceux qui sont plus en difficulté. Et l'idée selon laquelle, quand on dépasse de 1 euro ou d'un demi-euro le seuil tel qu'il a été prévu par les réglementations, d'abord, ça consacre beaucoup de temps humain à savoir si oui ou non on a passé l'euro de la limite, etc. Mais surtout, ça ne sert à rien. Et donc, pour nous, la priorité des priorités, c'est de faire en sorte que, à minima, les personnes aient de quoi se nourrir. Et avec ce que nous entendons en ce moment, nous nous disons qu'il faut faire monter cette préoccupation pour que ça irrigue l'ensemble de notre société. Je ne dis pas que la puissance publique ne doit pas faire. Bien sûr qu'elle doit faire. Elle est en charge. Mais on ne peut pas attendre. Et il faut agir, et c'est ce que nous faisons. Nous sommes sur 1300 lieux sur le territoire. Donc les éléments d'information dont on dispose sont extrêmement concrets et précis.
Vous maillez tout le territoire. Ne jamais baisser les yeux, c'est le titre de votre livre qui est un manifeste, mais qui raconte aussi votre parcours au sein du Secours Populaire. Vous aviez 12 ans pour votre première collecte. Et adolescente, vous devenez imbattable. C'est toujours vous qui ramenez le tronc, c'est comme ça qu'on appelle la boîte en fer.
Ça s'appelle comme ça.
La plus lourde. Et si vous êtes si convaincante, c'est parce que vous regardez les gens que vous sollicitez dans les yeux. Absolument. Parce qu'il faut faire comprendre à chacun d'entre nous qu'on est utile.
Absolument, tous. C'est exactement ça. Et que la contribution de chacune et de chacun, elle peut être petite, elle peut être moyenne, elle peut être grande. De toute façon, c'est cette contribution, d'abord elle permet après de faire des additions et d'utiliser cet argent en rendant compte de façon détaillée et en permettant à des gens de souffler. Ça, c'est clair. Mais ensuite, les gens qui agissent sont tellement heureux que c'est quand même dommage de se priver. Donc, en ce qui nous concerne, pour nous, c'est clair.
Vos parents avaient peu d'argent, mais c'était naturel pour eux de donner à ceux qui avaient encore moins qu'eux. Et aujourd'hui encore, vous constatez que ce sont les plus modestes qui aident le plus facilement les autres.
Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Ce que je peux dire, c'est que... Comment je vais vous dire ? Ceux qui ont connu la pauvreté et qui la connaissent encore savent qu'il peut y avoir pire et s'ils peuvent aider un peu, ils le font. Dans tous les milieux populaires, c'est clair. La situation plus compliquée des moments que nous vivons, c'est qu'il n'y a pas seulement la pauvreté, il y a la précarisation. Et la précarisation, ça rajoute l'angoisse et le fait de ne pas nécessairement savoir comment faire et quel réseau et quelles dispositions on peut prendre. Mais de surcroît, lorsque cela concerne aujourd'hui des populations qui n'avaient jamais imaginé qu'elles pourraient être touchées, au Secours Populaire, on le savait pour les personnes âgées. Et dans les années 60, on collectait pour les personnes âgées et on leur portait des colis. Aujourd'hui, il y a de nouveau des personnes âgées qui viennent dans les permanences d'accueil, de solidarité et de relais santé du Secours Populaire, parce qu'elles sont appelées en caution pour leurs enfants ou petits-enfants qui ont perdu leur travail et qui s'étaient engagés pour de la consommation courante. Et du coup, elles n'ont plus à manger. Ça veut dire qu'on est revenu à des situations dont on pensait qu'elles étaient terminées. Mais pour autant, ce que nous voyons de façon nette, c'est qu'au-delà des gens qui ont peu de moyens, nous sommes entendus par d'autres catégories de population qui ont envie d'aider. Et ça concerne les entreprises, ça concerne les chefs d'entreprise, ça concerne les artisans. Mais pourquoi ? Parce que dans leur propre environnement, ils ont rencontré des situations en se disant que jamais ils n'avaient imaginé que ça pourrait avoir lieu. Donc on n'est pas misérabiliste. On dit la situation est celle-là, il est temps de prendre les dispositions nécessaires pour la faire évoluer positivement. Et en France, on peut le faire. Dans d'autres pays, c'est plus compliqué. Mais en France, on peut le faire.
Le Secours Populaire intervient dans 80 pays. Oui. Depuis le 24 février, naturellement, vous vous mobilisez pour l'Ukraine. Mais vous y consacrez un chapitre dans votre livre. C'est un pays auquel vous consacrez de l'aide bien avant l'invasion. Et notamment pour les orphelins ukrainiens.
Oui, parce que nous avions appris par des amis ukrainiens, et je dois dire des amis ukrainiennes, qu'en Ukraine, il y avait, donc on est avant les bombes, 100 000 orphelins. Oui. Et donc évidemment, on a aidé, on continue d'aider les associations concernées, mais nous, ça nous a alertés. Et on a réfléchi. Mais si on regarde au regard de la France, dans, on va dire, les années 50, en France, il y avait aussi beaucoup d'orphelins. Et pourquoi ? Parce que, évidemment, dans nos pays, les évolutions sociétales qui font que les femmes peuvent choisir si elles vont ou non avoir des enfants, ben, ça a des effets directs. Bien sûr. Et donc, en Ukraine, ben, cette étape, ils ne l'avaient pas franchie. Et donc, il y avait beaucoup d'orphelins. Et pour nous, c'est intolérable. Ce n'est pas intolérable intellectuellement, Seulement, c'est que si on ne mise pas sur les enfants qui vont construire la planète de demain, alors on mise sur quoi ? Donc pour nous, cette démarche en direction des enfants, c'est l'un des éléments fondateurs du Secours populaire depuis qu'il y a un Secours populaire.
Émilie.
Vos parents étaient des rescapés de la Shoah, des Juifs d'Europe de l'Est. Et depuis votre enfance, vos parents vous ont préparé à faire face à l'antisémitisme ou d'ailleurs à toute autre attaque. Et ils vous ont répété cette phrase. Si on te traite de sale juive, tu cognes...
Tu cognes et tu discutes après,
et tu...
si nécessaire.
Vous l'avez appliquée, cette oui. leçon, à plusieurs reprises. Et c'est ce que vous enseignez aux enfants qui sont la priorité ?
Pas très souvent, mais une fois par an, on va dire.
Une fois par an, quand même.
Ce qui permettait de faire que le reste de l'année se passe bien. Ça se passait très vite. Et ça, c'était en primaire. Après, j'avais pas nécessairement besoin de cogner, mais c'était suffisamment clair pour que ça s'arrête. Et un peu plus tard, j'ai pratiqué pendant plus de 15 ans les sports de combat, parce que je pensais que c'était pas inutile. Et voilà.
C'est ce que c'est un très conseil simple. Que vous donnez aux enfants.
Mais bien sûr, moi j'ai appris la même chose à mes enfants, bien sûr. Et pas seulement aux miens, à d'autres aussi.
Ne jamais baisser les yeux, respecter, ne pas voilà, baisser les yeux devant la misère, la regarder en face, agir, oui. respecter ceux qui donnent, leur faire bien comprendre sûr. Qu'ils sont utiles. Il y a beaucoup de choses dans ce livre et ne pas baisser les yeux quand des insultes, quelles qu'elles soient, vous sont adressées. C'est signé Henriette Stenberg. Merci beaucoup d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous. Et je rappelle qu'on peut évidemment participer aux collectes du Secours populaire que vous représentez ce soir, dont vous êtes la secrétaire générale depuis 2019. Vous restez avec nous, d'autres sujets d'actualité à vous soumettre avec la story de Mohamed pour commencer. Mohamed, un médecin de Marseille, capitule face au climat d'insécurité de son quartier.
Oui, Saïd Wichou est généraliste dans les quartiers nord de Marseille depuis 15 ans, adoré de ses patients. Il est de ces médecins de famille qui ne reçoivent pas sur rendez-vous. Il accueille tous ceux qui se présentent dans sa salle d'attente, toujours pleine. La semaine dernière, deux jeunes hommes s'y sont installés au milieu des familles qui attendaient leur tour. Mais sous prétexte que l'un d'entre eux était pressé, il a exigé d'être reçu en urgence. Le médecin l'ayant invité à patienter, il s'est fait violemment insulter devant ses autres patients.
Et là, il a refusé de patienter. Tambourine sur la porte, il insiste pour que je le voie tout de suite. Son ami qui l'accompagnait s'est mêlé un petit peu de l'histoire. Il est venu m'insulter, me demander pourquoi tu parles comme ça, pour qui tu te prends. Enfin bref, il voulait me frapper. J'ai eu la chance d'avoir des patients dans la salle d'attente qui se sont interposés. Ça a été tellement violent que je n'ai pas pu finir ma journée de travail. Et donc, j'ai dû interrompre ma consultation, rentrer à la maison.
Ce sentiment d'insécurité, il n'est pas le seul à le ressentir dans ce quartier, l'un des plus pauvres de France, car depuis des années, les agressions de personnel médical se multiplient, comme on le voit dans ces reportages en 2013.
Les Bouches-du-Rhône sont le deuxième département de France le plus touché par ce problème de sécurité. Parmi les victimes, les généralistes arrivent largement en tête, avec 65% des cas déclarés. Temps de rendez-vous trop lointain, file d'attente trop longue, prescriptions ne correspondant pas aux attentes, les patients impatients deviennent agressifs.
Face à nous, on a des gens armés, on a des gens qui nous menacent de mort. C'est pas juste des insultes, ça serait des insultes encore, on fait avec, mais c'est pas que ça.
Depuis la semaine dernière, le rideau de fer devant le cabinet du docteur Wichou est fermé en permanence. C'est dans la rue que les patients attendent leur tour. Ils ne relèvent le rideau que pour accompagner l'un d'entre eux et en chercher un autre. Il faut dire que cette agression n'était pas la première pour le docteur Wichou.
J'ai dû porter plainte une dizaine de fois qui ont été classées sans suite. On n'est pas considéré par la justice comme si l'agression d'un médecin est quelque chose de complètement banal. On ne peut pas banaliser ce type d'agression comme l'agression des pompiers, d'un policier ou de beaucoup d'autres personnes.
Petit à petit, dans ce quartier du 15e arrondissement de Marseille, il s'est vidé de ses commerçants et de ses médecins, au point qu'en février dernier, le président Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture prochaine pour les habitants des quartiers nord d'une maison médicale numérique, en clair, d'un service de téléconsultation grandeur nature. Saïd Wichou, lui, a décidé de fermer définitivement son cabinet fin octobre.
Les 10 dernières années, je pense qu'il y a à peu près une dizaine... 7-8 médecins qui sont partis. On ne sont plus que 3, bientôt plus que 2. C'est sûr que ce quartier se vide. Quand il se vide de ses commerçants, de ses médecins, de ses services publics, c'est un quartier qui meurt. Donc, hélas.
Pour autant, le docteur Wushu a choisi de ne pas abandonner ses patients. Il restera dans le même arrondissement de Marseille, mais rejoindra une structure plus grosse, regroupant plusieurs médecins. Ainsi, ils pourront financer eux-mêmes le coût de leur sécurité.
Vous voulez réagir, Laurent Deville ?
Oui, en fait, je trouve que c'est absolument navrant et consternant, en fait, de voir qu'un médecin de cette qualité est obligé de fermer son cabinet. Ça me rappelle, si vous, c'est l'idée, en fait, qu'il y a des territoires en France qui deviennent des territoires à part, en fait, où il y a une sorte de sécession et de disparition des fonctions vitales de la médecine, les services publics, la sécurité. Donc, il y a un effondrement. On parlait tout à l'heure de la Russie, mais on voit bien qu'il y a en France un énorme problème avec la disparition de l'autorité, la notion d'autorité, la notion de sécurité. Moi, j'avais fait un reportage à Pierrefitte il y a quelques années, en 2017, et j'avais rencontré une gynécologue qui m'avait raconté exactement la même chose. Elle fermait son cabinet, elle partait parce que ça devenait... Elle partait de toute façon, elle avait été braquée avec revolver sur la tempe, en sortant de son cabinet où elle était depuis 33 ans, étant très connue. Donc c'est vrai que les gens étaient navrés parce que personne ne voulait reprendre. Ouais. Donc c'est vraiment le signe, en fait, de la crise profonde que nous traversons. Ça, c'est clair.
Merci beaucoup, Mohamed. C'est l'heure du 5 sur 5 de Mathieu Belliard.
Bonsoir, Babette. Bonsoir à toutes et à tous.
Mathieu, porno, l'enfer du décor. On s'intéresse ce soir au rapport produit par le Sénat sur une industrie qui manque sans doute de contrôle.
Océan de violence, violence systémique, traite des êtres humains, c'est tout l'univers du porno qui a été passé au crible de 4 sénatrices de la délégation aux droits des femmes, des auditions, des enquêtes et donc ce rapport accablant. La question des violences dans le porno, celle du proxénétisme sur mineurs et celle même de l'exposition des mineurs à des images qui ne leur sont pas destinées, des mois de travail en commission.
Vous travaillez avec des gens, vous avez un producteur et vous apprenez dans le journal que ces conditions de tournage ne sont pas respectueuses de la dignité humaine. C'est possible, hein ?
Ben oui, vous êtes diffuseur, mais à un moment, on est responsable. On est responsable de ce qui est diffusé, même si on ne l'a pas produit.
Que se passe-t-il si, au milieu du tournage, l'actrice dit « Eh ben en fait, non, je veux plus ».
Ce sont des actes de barbarie extrêmement importants dont il est question aujourd'hui et qui ont été révélés par la presse et dont la justice s'est emparée. Donc, de grâce, pour ces victimes, apportez-nous les réponses.
Bonsoir Annick Billon.
Bonsoir.
Sénatrice UDI, co-autrice avec trois autres de vos collègues sénatrices de ce rapport qui nous apprend que 2/3 des moins de 15 ans, 1/3 des moins de 12 ans ont déjà eu accès à des images pornographiques. Ces chiffres sont effarants. Mais on les répète après, après année, et rien ne change. Pourquoi est-ce qu'on se réveille maintenant ?
On se réveille maintenant parce que la pornographie d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec ce que la pornographie était auparavant. On est resté, notre logiciel de perception de la pornographie est resté à ce que c'était avant les années 2000. Or, depuis les années 2000, eh bien, il y a eu la naissance des chaînes tubes, il y a eu les réseaux sociaux. Et désormais, la pornographie, elle est accessible, gratuite, à tout le monde, à tout moment, 24 heures sur 24.
Et vous dites, donc, depuis les années 2000, ça fait déjà 22 ans, les années 2000, les enfants ont juste à cliquer sur un bouton, j'ai plus de 18 ans. Je pense aux jeux en ligne, poker en ligne, par exemple. On a très bien réussi à faire un système de carte d'identité pour vérifier la majorité des clients. Pourquoi on ne le fait pas sur le porno ?
Il y a une question, mais c'est aussi parce que l'industrie de la pornographie a évolué. Auparavant, avant les années 2000, la pornographie, c'était une affaire de sexe. Désormais, c'est devenu une affaire d'argent. C'est-à-dire que la pornographie, ce sont des multinationales, souvent hébergées dans des paradis fiscaux, qui n'ont aucune compétence particulière sur le sexe, mais par contre, qui sont d'excellents financiers et qui gèrent leur petite affaire avec bonheur depuis le monde entier. Et c'est ça qui est difficile aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est devenu invisible
Parce qu'auparavant, évidemment, lorsque vous aviez le film à Canal+, voilà, il y avait des règles, elles étaient respectées.
Un double codage.
Il y avait effectivement un double codage. Et donc,
et un diffuseur responsable
facile.
Et qu'on connaissait, auquel pouvaient s'adresser les autorités.
Mais maintenant, c'est, vous l'avez dit, les jeunes qui ont cet accès, c'est les smartphones, c'est-à-dire que les smartphones, les jeunes ont à leur disposition des smartphones de plus en plus jeunes.
Dès l'âge de, oui, dès le CM2, a priori.
Oui, et sont connectés, d'ailleurs, accèdent à des images pornographiques, en réalité, de manière volontaire, mais aussi involontaire. Parce que nous n'avons pas pris la mesure du danger, la mesure de ce qui se passait, et que nous n'avons pas mis en place, il y a des lois pourtant, hein, le blocage, empêcher les mineurs, ça existe, il y avait eu des amendements portés par Marie Mercier sur le sujet, donc ça existe, c'est possible, mais c'est pas fait, alors que c'est fait pour la haine en ligne, par exemple,
oui.
C'est fait pour le terrorisme, mais pour la pornographie, on en est resté encore à sourire un petit peu dès qu'on parle de pornographie. Je crois qu'après ce rapport, on ne parlera plus jamais de la pornographie comme on en a parlé jusqu'à aujourd'hui.
Il y a deux entreprises du secteur, vous avez utilisé le mot « industrie », qui sont visées par la justice pour viol en réunion, traite aggravée d'êtres humains, proxénétisme aggravé, les sites Jackie et Michel et French Bukkake. L'émission Complément d'enquête consacre un numéro à cette thématique demain soir. Sur France 2, ils ont suivi des gendarmes qui ont saisi des vidéos du patron de French Bukkake, des heures de vidéos en réalité. Alors attention aux plus jeunes devant la télévision, on regarde un gendarme qui justement est en train de qualifier les faits de violence qu'il observe.
Une jeune femme, entourée de deux hommes, réclame des préservatifs, en vain.
Ah ben, y a pas. Ah, c'était en option, t'as choisi la mauvaise option.
Sur une autre vidéo, difficile à regarder.
C'est pas parce que j'en peux plus.
Une jeune femme grimace de douleur, comme le relèvent les gendarmes. Elle supplie Pascal Oppé d'arrêter. Il continue, en la contenant avec ses bras.
J'en peux plus.
On t'a acheté, là.
Au sujet de votre travail, 6 mois de travail parlementaire, on a parlé d'auditions éprouvantes au Sénat.
Oui. C'était franchement très éprouvant. On sort de ces dizaines d'heures d'audition, les victimes qui sont victimes de l'affaire French Bukkake, on les a auditionnées à huis clos, puisque l'affaire est en cours. C'était difficile à entendre, difficile à supporter, parce qu'il faut que tout le monde ait conscience que les pleurs, le sang, les cris, les doubles pénétrations, les triples pénétrations, rien n'est simulé. Tout est vrai dans ces films. Il faut qu'on en prenne conscience collectivement. Et c'est pour ça que
et
nous...
Et pas consenti, en l'occurrence.
Oui, parce qu'il y a des stratégies. Souvent, des femmes vulnérables qui ont besoin d'argent. Et c'est pour ça qu'on fait le lien, parce qu'il y a une porosité entre prostitution, proxénétisme, pornographie. Et c'est démontré dans nos travaux. Et le consentement, il est obtenu souvent avec un premier viol de soumission et puis aussi des produits chimiques. Hein. On voit que la jeune femme pleure, demande à ce que ça s'arrête. Le consentement réversible, il n'est pas pris en compte. Et les contrats n'existent pas. C'est vraiment la jungle. C'est-à-dire que toutes les limites qui sont imposées, tout ce qui est interdit dans la société en général, les limites légales, éthiques, morales, elles sont...
N'existent pas.
L'industrie de la pornographie s'en affranchit totalement.
Alors dans cette industrie, justement, chez une autre firme du porno, le groupe Dorcel, on vous répond qu'il faudrait créer un métier d'agent pour les acteurs du X. Il vous met en garde sur toute tentation abolitionniste sur le porno. Que lui répondez-vous? Est-ce que c'est suffisant alors, comme solution?
Nous, on n'a pas décidé de prendre le parti d'être abolitionniste. Pourquoi? Parce que l'industrie, c'est des milliards de dollars à l'international. Donc on peut se dire, on va interdire, mais on n'arrivera pas à l'interdire. On n'a pas choisi de réglementer non plus, parce que proposer des contrats, proposer des chartes de déontologie, proposer des accompagnateurs sur les tournages, c'est aussi se donner bonne conscience. Oui, c'est très bien que Dorcel dise ça. La seule chose, c'est que la majorité des tournages, ils se passent où? En réalité, c'est la question. Moi, j'étais sur un plateau il y a quelques minutes où il y avait un acteur. Mais l'acteur, il m'a dit, moi, dans ma carrière, j'ai fait 10-15 films. Enfin, c'est des milliards de vidéos qui circulent. Donc, la pornographie éthique, ne faut pas en parler. Il n'y a pas de consommateur pour ça. Dans la mesure où vous avez 19 millions de vies uniques par mois en France, vous avez une addiction de certaines personnes sur cette industrie de la pornographie, sur le visionnage de ces films. Et plus vous en voyez, plus vous avez besoin de voir des choses hard, trash, difficiles à voir. Et on le voit, c'est franchement dramatique. Nous, ces victimes qu'on a reçues, il y avait une avocate pendant l'audition, elle était en pleurs.
Merci beaucoup Annick Billon, sénatrice UDI, donc l'une des quatre autrices de ce rapport Porno, l'enfer du décor. Un rapport, dites-vous, qui va changer durablement le regard de notre société sur cette industrie. Voilà, un océan de violence. Tout autre sujet dans le 5 sur 5 ce soir, peut-on jouer au foot avec l'extrême droite?
Alors la question peut paraître saugrenue, elle est étrangement brûlante d'actualité. Ce soir, en ce moment même en fait, est organisé un match de gala qui oppose l'équipe parlementaire des députés qui chausse des crampons à une sélection d'anciens footballeurs et de people. C'est une tradition, c'est pour la bonne cause, tout se passait comme prévu, jusqu'à ce qu'on se rappelle que 89 députés siègent sous la bannière Rassemblement National à l'Assemblée. Alors quid du barrage? Hier soir, des élus NUPES ont lancé le débat.
Nous ne voulons pas participer à, finalement, un objectif de récupération politique par le Rassemblement National pour se banaliser. Voilà.
Est-ce qu'on va faire croire que nous pouvons être coéquipiers sur le terrain alors que nous refusons obstinément à l'être dans l'hémicycle?
La banalisation conduit aussi à des alliances entre la droite et l'extrême droite. Et c'est ainsi que l'extrême droite peut ensuite gouverner. Nous n'avons pas de raison particulière de lui servir d'escabeau.
Moi, si je vois un élu FN dans l'équipe d'en face, peut-être mes tacles vont être un peu plus appuyés.
Aurore Berger, également la patronne du groupe Renaissance. La majorité, elle voit d'un mauvais œil que des députés de son camp jouent au foot avec l'extrême droite. Réponse rapide, tôt ce matin, Marine Le Pen sur RTL.
Ça en dit long sur ces gens. En réalité, c'est la haine tout le temps, partout. Il n'y a pas un espace où ils peuvent admettre que, eh bien, nous sommes des députés, on joue contre eux, d'ailleurs, des équipes étrangères qui vont nous regarder comme des, en nous prenant pour des pignoufs. Hein. Je pense qu'ils seront jugés assez durement par les Français.
Et ça a suffi à animer le débat toute la journée. Ce soir, le match a tout de même commencé vers 18h30. Nous avons voulu voir qui était sur le terrain, qui a bien voulu jouer. À l'entrée du stade, on est au pied de la Tour Eiffel. Anaïs Recouli et Audrey Payas ont retrouvé Carl Olive, l'un des capitaines de l'équipe parlementaire.
C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Moi, je regrette qu'on vienne instrumentaliser, politiser une rencontre. Ça fait, moi, c'est la 14e année que je fais un match. Vous le savez, il y a encore 6 mois, il y avait des rugbyman du 15 parlementaire qui évoluaient avec toutes les sensibilités. Ça posait aucun problème. Le meilleur combat qu'on puisse envoyer à ces personnes-là, c'est certainement pas en boycottant. Au contraire, comme je dis, Mme Le Pen devrait faire une statue à LFI. On n'a jamais autant parlé du Rassemblement National que depuis 24 heures. Ils sont un peu comme Jeanne Moreau, vous voyez. J'ai les mémoires qui flanchent, je me souviens plus de rien. Il y a 24 heures, les mêmes étaient tout à fait d'accord. 24 heures, tout à fait d'accord pour participer à cette rencontre. Les socialistes sont devenus les soumis des insoumis.
Alors je sais qu'il y a 5-2 sur le terrain, dont 3 buts d'une personnalité que vous allez reconnaître.
Sérieux, regarde, moi je pense que le sport, on est là avant tout, surtout pour la bonne cause, c'est déjà ça aujourd'hui. On dit souvent toute l'année que le sport ça rassemble, faut rassembler les gens, donc si nous aussi on se met à commencer à faire des différences entre les gens avec qui on joue au football, ça risque d'être compliqué, donc voilà, je pense qu'on se doit aussi d'être là, avant tout pour l'association. Nous, on est là pour mettre des raclés, s'ils veulent prendre des raclés, ils sont bienvenus.
Voilà, 5-2, c'est pour le moment.
Pour l'équipe des anciens footballeurs et des people, 3 buts d'Empokora.
Bon, il faut que les députés s'entraînent alors. Merci beaucoup Mathieu, merci Annick Billon,
merci
sénatrice UDI. Merci beaucoup Laure Mandeville, je renvoie vers Le Figaro et votre ouvrage « Les révoltés d'Occident, de Trump à Zemmour, que se passe-t-il vraiment ?» Henriette Stenberg, « Ne jamais baisser les yeux ». Ce récit est formidable chez Robert Laffont. Dans un instant, Chantal Goya, Olivier de Lamberterie, L'œil de Pierre, Le Vu et les actualités de Bertrand. On vous attend pour le dîner de C'est à vous. A tout de suite.